Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous réunir pour l'étudier ensemble, Seigneur. Et tu vois toute sa richesse. Seigneur, lorsque nous la parcourons si rapidement, Seigneur, nous nous sentons repris, que nous pourrions passer tellement plus de temps pour l'étudier, la méditer. Combien de temps nous passons dans des magazines, des livres, la télé, des choses qui n'ont pas une grande importance. Et pourtant, ta parole, Seigneur, nous voulons nous en nourrir. Aide-nous et donne-nous cette envie, encore ce soir, de chercher à la comprendre davantage et surtout, Seigneur, à la mettre en application. Te remettons tous ceux qui sont dans la maladie, ceux qui sont dans le besoin financier ou le besoin d'appartement, de logement. Te remettons les étudiants qui attendent des résultats d'examen ou qui vont passer des examens. Ceux qui ont des difficultés avec leur famille, Seigneur, et tu connais chacune des situations ici représentées. Seigneur, merci de nous rappeler ce soir par le prophète Daniel que tu es le Fils de l'homme, tu es le Dieu Tout-Puissant qui s'est incarné, qui connaît le futur aussi bien que le passé, et qui a de bons plans pour nous qui voulons te suivre. Amen. Donc, nous sommes dans la Bible en 24 heures, et je crois que nous arrivons à la 11e heure. On va ce soir étudier le prophète Daniel. Le prophète Daniel, on n'a pas à se faire de soucis sur le fait que c'était bien lui l'auteur de ces prophéties, de ce livre. Parce que Jésus a disait à ses disciples dans Matthieu 24, 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont en parlait le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. Et il disait que c'était donc le prophète Daniel qui avait parlé de cette abomination de la désolation. Donc si vous croyez en Jésus-Christ, vous n'aurez aucun problème avec le fait que l'auteur de Daniel, c'est bien le prophète Daniel. Si vous ne croyez pas en Christ, alors le fait que Daniel soit l'auteur ou non est moins important que le problème fondamental que vous avez à ne pas croire en Christ. Il n'y a que deux personnes dans la Bible dont il n'est dit aucun mal. Quelles sont ces personnes ? Jésus, genre, ça c'était un peu à part. Il y a deux autres personnes. Tu vois, même quand on ne sait pas, on peut par déduction logique. Toi aussi. On ne parle pas beaucoup de Maxime. Hein? Oh, Maximus, attends. Il y avait Joseph et Daniel. Joseph et Daniel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tous les deux se sont retrouvés un peu à des rôles de grands responsables dans le gouvernement. Et c'est intéressant de réaliser, une petite parenthèse, qu'on peut avoir des politiciens qui font honneur à Dieu. On a le sentiment que faire de la politique aujourd'hui, c'est nécessairement être un magouilleur, un tricheur. On a l'exemple de Joseph et de Daniel pour nous prouver le contraire. Deux parties dans le livre de Daniel. La première, six chapitres sont historiques. Et ça parle donc de la déportation de Daniel, du rêve du roi Nabuchodonosor, de la fournaise brûlante, et tous ces événements qui se sont passés dans l'histoire sont relatés dans ces six premiers chapitres. Et puis les derniers six chapitres, eux, ils sont essentiellement prophétiques, même si beaucoup de ces prophéties ont eu une réalisation historique surprenante. On avait Alors là, on aurait pu, en fait, faire cette étude il y a un petit moment, parce que si on se rattache au déroulement historique, Daniel, les 6 premiers chapitres arrivent même avant Esdras, Néhémie et Esther. Mais là, comme on a commencé les prophètes, on a décidé de le faire avec les prophètes. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'était passé après la division du royaume d'Israël, de Jérusalem, d'Israël ? Il y avait eu deux états, deux royaumes. Il y en avait un qui était parti en exil, où ça ? En Assyrie, ça c'était le royaume du nord d'Israël, dont la capitale était Simié. Répète, j'ai pas entendu. Samarie. Samarie. Et puis l'autre qui regroupait, qui était, qu'on appelait Juda, c'était le royaume du sud, et dont la capitale était Jérusalem. Vous vous souvenez de l'Irak ? Il y a deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Et la vallée qui se trouve entre ces deux fleuves s'appelle comment ? Mésopotamie. Et Mésopotamie, ça veut dire quoi ? Entre deux fleuves. Un cheval de fleuve, c'est un hippopotame. Potamus, c'est le fleuve. Donc la Mésopotamie qu'on a vue sur nos écrans de télévision il n'y a pas bien longtemps, on les voit moins maintenant. Il y avait l'Assyrie qui était au nord et la région de Babylone qui était au sud de cette Mésopotamie. Quelle était la capitale de l'Empire du Nord, de l'Assyrie ? Ninive, très bien. Et celle du sud ? L'Empire de Babylone avait pour capitale Babylone, très bien. Et elles étaient à peu près distantes de 500 kilomètres. Les unes entre les autres, les unes avec l'autre. Enfin, il y avait 500 kilomètres entre les deux. Pardon. On a perdu quelqu'un là déjà ? Il est là, non ? En 721, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était le moment où le roi Sargon a emmené le royaume du Nord en exil en Assyrie. Et pour le sud, ça s'est passé sur plusieurs années, mais c'est en 586 qu'on retient la date où Juda a été emmené en captivité à Babylone. Techniquement, il y a eu 4 périodes de déportation. De 606, en 606 avant Jésus-Christ, il y a eu un roi qui s'appelait... En fait, c'était un général à l'époque, Nabucodonosor, qui est venu faire le siège de Jérusalem. À l'époque, c'était son père qui était le roi de Babylone, Nabopolassar, ou Polassar. Et ce roi Nabucodonosor avait été envoyé pour se battre contre l'empire assyrien à Ninive et contre l'Égypte. À la bataille dont vous avez peut-être entendu parler du nom, qui s'appelle Carchemish, en 605 avant Jésus-Christ. Ça, c'est une des grandes batailles de l'histoire. Une ville qui se trouvait sur l'Euphrate. Et là, le général Nabucodonosor, fils du dirigeant Nabopolassar, avait vaincu le pharaon. Et après la victoire sur Ninive, Babylone était maintenant la première puissance mondiale. Il passe près de Jérusalem. Souvent, Jérusalem, en fait, avait le défaut de se trouver mal placé. On verra plus tard par la suite qu'il y avait toujours des gens qui se battaient entre eux, puis, pof, ils voyaient Jérusalem, ils allaient casser la figure à Jérusalem, ou ils essayaient du moins. Et en 797, ce général revient prendre des trésors. Non, pardon, c'est en 606, quand il fait le premier siège de Jérusalem, il apprend que son père est décédé et donc il se retrouve empereur lui-même. Et là, il va ramener des jeunes nobles, dont Daniel et 3 amis, à Babylone. Et il va mettre en place un roi qui s'appelle Yehoyakin, qui va remplacer Yehoyakim. Alors c'est vrai que quand on lit un conseil, quand vous lisez ces livres historiques, il est bon d'avoir un résumé, un livre qui vous met bien les points sur les i pour avoir les dates ou même la chronologie comparée de ces royaumes, parce que quand on lit au fur et à mesure, on peut vraiment se sentir complètement perdu et lire sans rien retenir de ce qui se passe. Donc on va se rappeler qu'après en 586, les Babyloniens vont revenir, et là ils vont brûler Jérusalem après un siège d'un an et demi. Et puis plus tard encore, en 581, ils vont emmener encore un groupe de captifs supplémentaires. La captivité de Juda à Babylone avait été prédite par le prophète Ésaïe et par le prophète Michée, plus de 100 ans plus tôt. Donc on arrive à l'époque où maintenant on a notre brave Daniel. Daniel, dont le nom veut dire « Dieu est mon juge », c'était donc un jeune noble israélite, juif. Et on peut maintenant regarder, si vous voulez, vous tournez à Daniel, c'est page 873 dans la Bible à la colombe. Et là, les premiers versets reprennent cette histoire que l'on trouve par ailleurs dans les Chroniques et dans Ésaïe. La troisième année du règne de Yehoyakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur, Dieu, livra entre ses mains Yehoyakim, roi de Juda, une partie des objets de la maison de Dieu. Pour concrétiser la domination, leur victoire sur un autre peuple à l'époque, on emportait les statues des dieux de ces peuples. Le problème, c'est qu'avec les Juifs, il n'y a pas de statues des dieux. Donc ils ont pris ce qui ressemblait le plus à des objets de valeur, c'est-à-dire tous les objets qui servaient au sacrifice dans le temple, dans le tabernacle. Le roi Nabucodonosor demande d'avoir des jeunes pour les utiliser comme futurs fonctionnaires, futurs ministres. Et c'est là que le chef des eunuques remarque que parmi ces jeunes israélites, il y avait quatre jeunes qui avaient l'air très bien. Il y avait Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Alors on connaît Daniel sous le nom de Daniel, mais ses copains, on les connaît plutôt sous les noms babyloniens qui leur ont été donnés tout de suite: Shadrach, Meshach et Abednego. D'entrée, on voit comment ces jeunes avaient une grande foi en Dieu, et ils faisaient appel à Dieu pour les aider à ne pas se compromettre dans une culture païenne. Il y a ce très beau verset de chapitre 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et on se souvient que le chef des eunuques, donc le haut fonctionnaire qui avait leur charge, avait la charge de les préparer pour le roi les voit, s'inquiète parce qu'il se dit: si vous mangez pas de la bonne viande et vous buvez pas un bon coup, vous êtes malade. Et en fait, Daniel lui dit: non, on va manger des légumes et pas de vin. Et ils prospèrent physiquement, et ils sont finalement présentés au roi, qui trouve qu'ils sont très, très brillants, verset 20, sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Le grand rêve du roi Nabucodonosor, vous en souvenez, on avait vu ça l'an dernier pour ceux qui étaient à AB National. On avait un joli diagramme. Le roi avait fait un rêve qui l'avait fortement troublé et il avait décidé de mettre les conseillers de son père à l'épreuve. Parce que quand il avait hérité du trône, il avait aussi hérité de tout un tas de fonctionnaires et de sages et de conseillers, de magiciens, d'astrologues. Et plutôt que de leur dire le rêve qu'il avait fait pour leur demander ce qu'il signifiait, il leur dit après tout, si vous êtes vraiment si bon que ça, vous devriez être capable de deviner le rêve que j'ai fait et de m'en donner le sens. Et bien sûr, eux, ils protestent, mais c'est pas possible, on n'a jamais fait ça, c'est pas juste. Et le roi se fâche et dit, puisque c'est ça, il leur donne un délai, si au bout de, je crois que c'est quelques jours, s'ils n'ont pas trouvé le rêve et sa signification, il les mettra à mort. Et ça voulait dire aussi que Daniel et ses compagnons allaient être mis à mort. Alors Daniel, verset 14 par exemple, du chapitre 2, il demande un peu de délai au roi, il arrive à parler au roi pour lui demander un peu de temps. Et là, il fait une réunion de prière avec ses amis pour que Dieu lui révèle le mystère de la vision. Un très beau passage, verset 20, Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force ». C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue pour la sagesse et la force que tu m'as donnée, car tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, et tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Donc le roi va, plutôt Daniel va voir le roi, et il lui dit on a l'explication, et il précise bien, il prend soin de ne pas prendre de gloire pour lui-même. Il dit c'est pas lui qui a trouvé la solution, mais il dit verset 28, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les mystères et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Et Daniel donne au roi la vision qu'il a eue et il lui explique ce qu'elle représente. Alors il dit qu'en fait c'est la fameuse statue du rêve de Nabucodonosor, une grande statue immense, d'une très belle, une grande splendeur, qui avait pour tête une tête en or. Ensuite la poitrine et les bras étaient d'argent. Le ventre et les cuisses étaient de bronze, les jambes de fer, et les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Et il explique que toi, le roi, tu regardais, et à ce moment-là, il y a une pierre qui s'est détachée, on ne sait pas d'où elle venait, qui a frappé les pieds de fer et d'argile de la statue et qui les a réduits en poudre et a détruit la statue. Et la pierre qui avait frappé la statue, elle devient une grande montagne qui remplit toute la terre. Et il continue en expliquant qu'en fait, la tête d'or, ça représente le royaume de Nabucodonosor. C'est le royaume de Babylone qui va donner la place, céder la place au royaume des Perses et des Mèdes. Ça va être la poitrine et les bras en argent. Il va y avoir ensuite un autre royaume. On verra plus loin qu'il s'agit du royaume de l'Empire grec, sous Alexandre. Et cet empire lui-même va céder la place à l'Empire romain. Et vous vous souvenez peut-être que l'Empire romain, en fait, c'est divisé en deux. Ou du moins, ça donnait suite à l'empire de Constantinople, de Byzance, l'empire byzantin et l'empire romain. Il y a une division. Et là, on pourrait voir que ce sont les jambes parallèles, deux empires qui issus d'un même empire romain, qui se terminent par un autre royaume qui est la continuation de l'Empire romain, mais qui est faible et qui, à qui est mêlée de l'argile, l'argile de potier. Voilà, donc c'est la révélation du rêve de Nabuchodonosor. En fait, c'est pour dire au roi que l'Empire de Babylone ne va pas durer, qu'il va être remplacé par un autre grand empire, la Perse, puis les Grecs, puis les Romains, puis quelque chose qui va arriver bien plus tard, mais tout ça ne sera pas de poids contre le royaume de Dieu. On verra que c'est ce que désigne cette pierre qui fait tomber tous ces royaumes en les abattant et qui remplit toute la terre. C'est intéressant de noter qu'à partir du verset 4 du chapitre 2, au début c'était de l'hébreu et maintenant on est passé à de l'araméen. La Bible est écrite en trois langues, il y a l'hébreu, le grec, mais il y a aussi l'araméen qui était la langue parlée en Palestine encore au temps de Jésus. Et c'était un langage qui était utilisé par Daniel lorsqu'il parle des nations païennes. Et là, il vient de parler des grands empires du monde païen. Et jusqu'au chapitre 7, ça va être de l'aramaïque ou araméen. Devant cette révélation, le roi Nabuchodonosor tombe face contre terre. Il se prosterne devant Daniel et il dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il révèle les mystères puisque tu as pu découvrir ce mystère. » Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel prit le roi de remettre l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Il faut réaliser qu'en fait, Daniel a passé 70 ans à Babylone. Sa première prophétie, celle qu'on vient de lire, il avait une vingtaine d'années et on verra que la dernière, il avait près de 90 ans. 70 ans, c'était la durée de l'exil prévu, prophétisé par Jérémie à la date près. Daniel devient donc comme un premier ministre, l'homme de confiance du roi Nabuchodonosor. C'est pas sans rappeler justement Joseph et le pharaon d'Égypte. Encore une fois, si vous faites votre travail de tout votre cœur pour servir le Seigneur, que ce soit dans le domaine séculaire ou non séculaire, Dieu peut vous placer là où vous allez être utile à son royaume. Alors après ça, le roi Nabuchodonosor, peut-être que sous le coup de ce rêve, il se dit c'était bien cette histoire de grande statue. Il se fait faire une statue à son effigie. Il fit une statue d'or haute de 60 coudées. Une coudée, c'est à peu près 50 cm, donc c'est une statue de 30 mètres. C'est très haut. Et il fait convoquer ses autres intendants, gouverneurs, magistrats, trésoriers, pour qu'ils se rendent à l'inauguration. Et normalement, au moment où il y avait de la musique qui était commencée, tout le monde devait se prosterner devant la statue. Mais bien sûr, les jeunes juifs, Shadrach, Meshach et Abednego, refusent de se prosterner. Et c'est rapporté au roi par ses administrateurs, ses hauts fonctionnaires qui sont jaloux de la faveur dont jouissent Daniel et ses amis. Ils s'en prennent donc à ces trois jeunes Israélites, trois jeunes Juifs, et Nabuchodonosor leur dit que s'ils ne s'ils ne se prosternent pas lorsque la musique jouera, à ce moment-là, ils vont être gravement punis. Ils vont être mis dans la fournaise ardente. Ça aussi, c'est un épisode bien connu qui frappe l'imagination, qui est populaire chez les enfants dans la classe du dimanche. Et il y a cette très belle réponse de ces jeunes: nous ne sache ô roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Et là, le souverain se met en colère et il donne l'ordre qu'on fasse chauffer la fournaise 7 fois plus fort que d'habitude. Alors on a retrouvé dans les fouilles archéologiques ce genre de grande four surmonté d'une cheminée qui permettait de faire fondre les métaux, mais aussi apparemment de faire supprimer les gens réfractaires, c'est le cas de le dire, aux édits du roi. Ils sont jetés là-dedans. Il est intéressant de remarquer que Daniel n'a pas été attrapé. Par contre, le roi remarque que lorsqu'il regarde dans la fournaise pour voir ce qui se passe, voir comment ça grésille ou ça brûle, il voit qu'il y a un quatrième personnage qui marche et qui parle avec eux. Et apparemment, il ne souffre aucunement du feu. Les gens réalisent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs habits n'étaient pas endommagés et que l'odeur du feu ne les avait même pas atteints. Si vous allez prendre un café dans un café, en principe, vous ressortez, vous avez, pour ceux qui ont des cheveux longs, les cheveux qui sentent le tabac, les vêtements qui sentent le tabac. Là, ils ont passé quelques heures dans la fournaise et c'est comme il n'y avait rien du tout. Alors, à votre avis, qui était cette quatrième personne ? On s'accorde à penser que ce n'était pas Daniel, puisque Daniel n'était pas là à l'entrée, mais que c'était une apparition de Jésus-Christ préincarné. Dans l'Ancien Testament, il y a souvent des moments où on voit un ange de l'Éternel. Lorsqu'il est question de l'ange de l'Éternel, c'est juste généralement ce qu'on appelle une apparition préincarnée de Jésus-Christ, c'est-à-dire avant qu'il ne vienne se mettre un costume d'homme à Bethléem, et qui était là pour les encourager dans l'épreuve. Et ça, bien sûr, ça va aussi avec tout le message de la Bible qui dit que Dieu ne nous préserve pas des épreuves, que nous allons avoir des difficultés dans la vie, des choses difficiles, mais il nous promet d'être avec nous. Il est à ce verset de Ésaïe: quand tu passeras par les eaux, tu ne te noieras pas, lorsque tu passeras par le feu, tu ne brûleras pas, car je suis avec toi. Et là, on voit justement cette apparition préincarnée de Jésus qui est avec ses hommes dans l'épreuve, une épreuve terrible, l'épreuve du feu. Et on ne nous dit pas ce que faisait Daniel. Alors certains disent peut-être qu'il s'était prosterné, mais ce n'est pas dans le genre du personnage qu'il avait cédé. Ou peut-être que les hauts fonctionnaires n'avaient pas osé l'accuser devant le roi. Il était plus probablement absent en mission quelque part, et c'est peut-être pour ça que leurs ennemis avaient choisi ce moment-là pour les attaquer et les mettre en difficulté auprès du roi. Et après ce miracle, lorsque le roi s'aperçoit qu'en fait le feu n'a rien fait à ces jeunes Israélites qui veulent servir leur Dieu, qui ne veulent pas se compromettre, il donne un autre ordre: tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui l'appartienne, qui parlera inconsidérément contre le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Et après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Là encore, on voit là comment Dieu, par des miracles, arrive à tourner le cœur des rois. Ça nous rappelle ce proverbe qui dit que le cœur des rois est comme une rivière dans la main de Dieu qui peut l'incliner comme il le désire. Et puis, on a un chapitre 4, qui est en fait un chapitre de la Bible qui est écrit par un païen. Parce que le chapitre 4, c'est le roi Nabuchodonosor qui raconte ce qui lui est arrivé. Il avait dit d'abord, il m'a semblé bon d'indiquer les signes et les prodiges que le Dieu Très-Haut a opérés à mon égard, que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants, son règne est un règne éternel. Sa domination subsiste de génération en génération. Et là, il explique pourquoi il dit cela. C'est parce qu'il avait fait un rêve, encore un rêve, à l'époque, rêvait beaucoup. Et il avait le rêve d'un arbre, d'un grand arbre. C'est détaillé en verset 8. Cet arbre était grand et fort. Sa cime atteignait le ciel. Et on voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Sous lui, les bêtes des champs trouvaient de l'ombre. Dans ses branches habitaient les oiseaux du ciel et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Et puis, dans la vision, voilà qu'il entend un des saints qui veille et descendit des cieux. Il cria avec force, « Abattez l'arbre, coupez ses branches, arrachez le feuillage et dispersez les fruits. » Et donc, le rêve de Nabuchodonosor, c'est de voir qu'en fait ce bel arbre qui était très prospère et très grand se trouve coupé. Et il demande à Belshazzar, qui était le nom babylonien de Daniel, que veut dire ce rêve. Apparemment, personne ne voulait lui dire l'explication du rêve. Et il lui dit, toi tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. C'est presque dire, toi tu es rempli du Saint-Esprit, dis-moi ce qui se passe. Et en fait, la raison pour laquelle les mages ne voulaient pas révéler le rêve, ça voulait dire qu'en fait, le roi allait tomber dans une période catastrophique pour lui, mais Daniel a le courage de lui dire qu'en fait l'arbre que tu as vu, c'était toi, ô roi, qui est devenu grand et puissant, dont la grandeur s'est accrue au point d'atteindre le ciel. Et le roi a vu qu'il allait être abattu. Et verset 20, « Mais laissez en terre le tronc et ses racines dans les chaînes de fer et de bronze parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait avec les bêtes des champs, l'herbe pour partage jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. » Et donc, Daniel a le courage d'annoncer la mauvaise nouvelle au roi Nabuchodonosor qui va il va faire une maladie mentale, il va vivre comme un animal, se nourrir d'herbe. Et c'est ce qui s'est accompli. Et verset 31, « Après le temps marqué, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. » Donc il était vraiment devenu fou. Et là, il bénit le Très-Haut, il le loue, le glorifie, celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, dont le règne subsiste de génération en génération. Et donc, le roi revient, après avoir fait s'être laissé guider par l'orgueil, la folie des grandeurs, cette épreuve le ramène à la raison et surtout à la foi au Dieu des Israélites. Le Talmud, donc c'est les livres de la tradition rabbinique qui ne sont pas dans la Bible mais qui sont des écrits historiques ou religieux des rabbins de ces siècles, explique en fait c'est Daniel qui avait pris soin du roi Nabuchodonosor pendant ce temps de folie où il vivait comme un animal. Maintenant, verset 34, « Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Il était bien placé pour savoir que lorsqu'on s'élève, Dieu nous rabaisse. Et si on s'abaisse, Dieu nous élève, comme le dit la Bible en plusieurs passages. Chapitre 5, on a avancé dans l'histoire. Maintenant, le roi qui règne à Babylone, c'est en fait le petit-fils de Nabuchodonosor qui s'appelle Belshazzar. C'est pas Belteshazzar, c'est Belshazzar. C'est donc le fils du fils de Nabuchodonosor qui s'appelait Nabonidès et qui était apparemment co-régent avec lui. Et ce roi ou ce co-régent décide de faire une grande fête. Vous vous souvenez qu'on avait vu ça, c'est une fête qui, dans les deux chroniques, on avait parlé de ça. Il donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en présence de ses 1000, chapitre 5. Et puis là, il se rappelle qu'il y a des vases d'or qui ont été ramenés du temple de Jérusalem. Et il les fait chercher pour que le roi y boive, ainsi que ses femmes, ses concubines et ses grands. On apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses grands, ses femmes et ses concubines y burent. Ils burent du vin, ils louèrent les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Et c'est là qu'à ce moment, on voit une écriture, une main qui commence à écrire sur le mur. Un symbole, une écriture que personne ne comprend. Il est dit que le roi voit l'extrémité de la main et que ses reins se relâchèrent. Ses genoux s'entrechoquèrent. C'est une façon pudique de dire qu'il n'a pas pu se retenir de peur. Les astrologues, les chaldéens, les devins essayent de lire, mais rien ne peut, ils ne reconnaissent pas, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et la reine, la mère, sans doute la reine, la femme de Nabuchodonosor, elle se rappelle de ce prophète Daniel qui avait déjà pu révéler les énigmes. On fait donc appel à Daniel, et lui, verset 24 dit qu'en fait voilà ce qui est écrit, c'est Méné Méné Tekel et Parsine. Des mots bizarres, mais la raison pour laquelle on pense que les sages ne pouvaient pas lire, c'est parce que il y avait sans doute une application de la cryptographie. Quand on lit le livre de Jérémie, on s'aperçoit qu'il y avait des fois pour les gens dans la Bible, il y a des messages qui utilisent des procédés d'encryption, de camouflage du texte. Un des plus fameux s'appelle la méthode ADBACH, A-T-B-A-C-H, et ça consiste simplement à diviser l'alphabet en deux, prendre la première moitié, la mettre en face de la deuxième moitié et de remplacer les lettres de la première moitié par une lettre dans l'autre moitié, un peu comme si on remplaçait A par, si on divisait l'alphabet latin à la 13e lettre, de A à M et puis de N à Z. Donc on va remplacer la lettre A par la lettre N, la lettre N, la lettre M par la lettre Z. Et c'était des méthodes qui étaient pratiquées, donc on pense que c'est pour ça que les autres n'arrivaient pas à lire cette écriture hébraïque, Méné, Méné, Tekel et Parsine. Une fois décodé, ça voulait dire compter, compter, peser et diviser. Autrement dit, tu as été compté, l'explication est dans le texte, c'est verset 26. Méné, c'est compter, donc Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Tekel, c'est pas le petit chien, mais ça veut dire tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Parsine, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Et le mot Parsine qui veut dire diviser, si on change la voyelle, Parce qu'il faut se rappeler qu'il n'y avait pas de voyelles dans l'hébreu antique. Il y avait des consonnes. Parsin, c'était aussi le nom des Perses. Donc, de toute façon, c'était la fin du royaume de Nabucodonosor, du royaume de Babylone. Et il est dit que Belshazzar, donc le régent ou le co-régent, donne un... remercie Daniel en lui donnant un vêtement rouge de pourpre. Il lui met au cou un collier d'or et il le fait troisième dans le gouvernement du royaume, c'est-à-dire après les deux co-régents. Daniel est maintenant la plus haute autorité. Mais cette nuit-là, Belshazzar, le roi des Chaldéens, fut tué. Chapitre 6. Darius le Mède reçut la royauté à l'âge de 62 ans. Donc on passe maintenant aux Perses ou aux Mèdes. Darius. Alors si vous vous souvenez, on avait parlé que lorsque Daniel avait montré au roi Cyrus, aussi un roi perse, les passages qui parlaient de lui dans Ésaïe. Ésaïe 44, on peut regarder encore. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains critiques disent qu'en fait Ésaïe a été écrit par deux auteurs à deux périodes différentes, parce qu'il y a des prédictions, des prophéties qui sont réalisées de telle façon qu'il refuse le surnaturel et donc il refuse d'admettre que ce soit le même auteur. Et Ésaïe 44, 28, donc 150 ans avant Cyrus, je dis à Cyrus, mon berger, il accomplira tous mes désirs, il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. En étudiant Esdras, on a vu que le roi Cyrus avait issu un décret qui avait permis aux Juifs de repartir pour rebâtir le temple de Jérusalem. Donc, c'est Cyrus qui... Il est question aussi au chapitre 45 d'Ésaïe. Ainsi parle l'Éternel à son Messie, à Cyrus. Le Messie, ce n'est pas le Messie qu'attendaient les Juifs, c'est simplement quelqu'un qui est oint par Dieu, qui a reçu une onction. Cyrus qu'il saisit par la main droite pour terrasser les nations devant lui. Plus loin, verset 13, c'est moi qui ai suscité Cyrus pour la justice, j'aplanirai toutes ses voies, il rebâtira ma ville et laissera partir mes déportés sans indemnité ni présent, dit l'Éternel des armées. Et il y a même un passage dans Jérémie qui explique que Cyrus allait prendre Babylone en asséchant le cours du fleuve, ce qui s'est passé. Il y a eu un canal qui a été ouvert pour détourner l'eau de la rivière et ça a permis aux armées des Perses de rentrer dans la ville sans coup férir et d'arriver et de mettre fin à la soirée chez Belshazzar. Alors là, il y a une petite controverse pour savoir quelle est la relation entre Cyrus et Darius. Parce que tout de suite après qu'on ait parlé de cette fin de Belshazzar, on parle de Darius qui a reçu la royauté. Au chapitre 6, dernier verset, il est question que Daniel lui-même prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Donc certains pensent que peut-être en fait Cyrus était le vrai empereur et que Darius était simplement à l'époque un général en chef qui avait pris la ville et qui après avait succédé à Darius. Et c'est vrai que c'est terrible de voir ce qui s'est passé à Bagdad lorsqu'on voit toutes ces antiquités qui ont disparu, qui ont été pillées. Quand on voit le mal qu'on a à essayer d'établir la chronologie des rois pour connaître l'histoire des temps bibliques, ça fait mal au cœur de savoir qu'il y a peut-être des pièces qui pouvaient donner des éléments de réponse pour les chronologies qui ont maintenant disparu, peut-être qu'elles reparaîtront sur les marchés d'art quelque part. Daniel, maintenant établit donc un bon rapport avec Darius, le roi des Mèdes et des Perses. Et là encore, il y a toujours de l'opposition. Les mêmes hauts fonctionnaires babyloniens qui en veulent à Daniel d'avoir pris l'ascendant sur eux. Il est dit qu'il ne trouve rien à reprocher à Daniel. Verset 5, chapitre 6, il cherchait un motif pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais il ne put trouver aucune occasion ni aucune erreur parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. Il n'y avait pas d'abus de biens sociaux, il n'y avait pas de compte secret en Suisse, il n'y avait pas de cadeau à la maîtresse du député ou quoi que ce soit, c'était des hommes d'une grande intégrité. Et ils disent même, nous ne trouverons aucun motif contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions un dans la loi de son Dieu. Et ils remarquent que Daniel priait régulièrement, trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il l'avait toujours fait. Et ils ont l'idée de faire signer un édit royal au roi qu'on ne doit plus adresser de prière à d'autres dieux. Et que si c'est le cas, la seule personne à qui on peut adresser des prières, c'est le roi Darius. Et s'il y a des problèmes, ils seront jetés dans la fosse aux lions. Donc ça fait encore le bonheur de l'école du dimanche. Il y a la fournaise ardente et puis il y a la fosse aux lions. C'est intéressant de remarquer combien il y a d'expressions qui sont rentrées dans le langage commun, qui viennent justement de la Bible. On se dit c'était la fosse aux lions pour dire c'était un endroit pas possible où tout le monde voulait s'attaquer les uns les autres. Et une chose qu'on a déjà remarquée, c'est que lorsqu'une loi était signée dans ces empires, souvent personne ni rien ne pouvait la remettre en cause. Une loi était une loi. On se souvient pour l'histoire de Esther et de Aman que c'était très difficile, une fois que la loi avait été adoptée par le roi, signée par le roi, de trouver une exception, de revenir en arrière. Et là, le roi est très affligé, parce qu'il aime beaucoup Daniel, avec qui il travaille. Mais il est obligé d'emmener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions parce qu'on l'a surpris bien sûr en train de prier le Dieu d'Israël. Et il a le cœur gros et il dit « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te sauver. » J'aime bien cette expression « servir Dieu avec persévérance ». Je crois que tous nous avons besoin de cette persévérance. On vit dans une société où à la première difficulté, les gens abandonnent. Je pense à des étudiants qui continuent, qui repassent l'examen et puis qui finissent par l'avoir, des gens qui cherchent du travail, qui se font jeter, qui recommencent. Il faut qu'on persévère, et surtout dans notre foi, dans notre vie de chrétien, on peut se sentir attaqué par l'ennemi. Il y a des fois on va dire non, il faut persévérer. Dieu nous demande de persévérer et il est là pour nous soutenir. Alors le roi passe une très mauvaise nuit, il ne dort pas, et le matin il vient voir Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel se mit à parler au roi. Roi, vis à jamais, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, au roi, je n'ai rien fait de mal. Alors le roi eut une grande joie et ordonna de faire retirer Daniel de la fosse. Il ne lui fut trouvé aucune blessure, parce qu'il avait eu foi en son Dieu. Et le roi ordonne que les hommes qui avaient monté le stratagème soient à leur tour jetés dans la fosse, et pour eux, ça se passe beaucoup moins bien. Et là, il donne... Verset 26, il édicte un texte qui doit être lu à tous les peuples, nations et aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, Que la paix soit avec vous en abondance. Je donne l'ordre que dans tout l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et du respect devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste à jamais. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui sauve et délivre, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. Daniel lui-même prospéra sur le règne de Darius et sur le règne de Cyrus le Perse. Encore une fois, on voit des rois païens faire l'apologie du vrai Dieu. Ça, c'est très beau et on peut prier que ça puisse se passer encore aujourd'hui, que des chefs de gouvernement puissent parler pour le vrai Dieu et dire qu'il est le seul qui délivre, il est le seul qui peut régler les problèmes économiques. Ça, c'est donc la partie historique. Maintenant, on en vient chapitre 7 à 12, la deuxième partie du livre qui repart maintenant en hébreu. On a encore des visions de Daniel. Alors, il y a la vision des quatre bêtes. Daniel explique que pendant un rêve, il avait vu dans cette vision un lion qui avait des ailes d'aigle. Et puis à côté, il y avait une deuxième bête, un ours. Puis un léopard. Et finalement, une quatrième bête qui était terrible, effrayante et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer. Elle mangeait et pulvérisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. Chapitre, donc un rêve qui n'est pas expliqué tout de suite. On va voir un peu plus loin. Daniel fait, dans cette vision, il a une vision de Dieu qui ressemble étrangement à la vision que Jean a eue à Patmos de Jésus. À partir du verset 9, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait devant lui et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et des myriades se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. » Ça, c'était le dernier bête avait 10 cornes et dont une corne qui avait grandi davantage. Et tandis que je regardais, la bête fut tuée, son corps périt, livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes furent dépouillées de leur puissance, mais une prolongation de leur vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté ne sera jamais détruite. Donc là, une très belle apparition de Jésus-Christ préincarné. Une vision donc. Et ce terme qui est utilisé pour la première fois, qui sera repris beaucoup dans l'évangile de Luc, le fils d'homme. Fils de l'homme, à la fois le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, pour exprimer la double nature complète de Jésus comme étant Dieu et à la fois homme. Il est dit que ces visions l'épouvantent et quelqu'un lui donne l'explication dans sa vision et là encore on retrouve les quatre royaumes dont il était question. Le lion, c'est le premier empire, ça correspond à la tête d'or, donc le Babylone. L'ours, c'était un empire puissant aussi, ça correspond au deuxième empire, à la poitrine d'argent, donc aux Mèdes et aux Perses. La Grèce, c'est le léopard, qui est aussi donc très rapide parce que on s'en souvient, l'empire de Grec a pris son apogée sous le règne de Alexandre le Grand, qui a été installé l'empire grec jusqu'en Inde et qui a été aussi très très rapide, ça s'est passé très vite, donc comme un léopard. Et finalement le monstre à 10 cornes, c'est le quatrième empire, ce sont les jambes de fer, les pieds de fer et d'argile, c'est Rome. Une autre vision de Daniel qui confirme celle-là, c'est la vision du chapitre 8 où il est question d'un bélier et d'un bouc. Verset 20, le bélier que tu as vu qui avait deux cornes, c'est en fait l'ange Gabriel qui vient lui expliquer le sens de son rêve. Le bélier que tu as vu qui avait deux cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Donc le bélier qui correspond à l'ours, qui correspond à la poitrine d'argent, c'est les rois des Mèdes et des Perses. Et puis verset 21, il y avait un bouc velu, poilu, c'est le roi de Yavan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Et ça, ce sont Yavan, c'est un autre terme pour désigner le royaume, l'empire grec, la Grèce. Cet premier roi, le grand bouc velu, ça correspond donc à ce léopard, c'est Alexandre le Grand. Elle fut brisée, cette corne entre ses yeux, c'était le premier roi, et les quatre qui s'élevèrent à sa place sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas sa force. Ça, c'est encore une prophétie historique de la division du royaume d'Alexandre le Grand, de l'empire d'Alexandre le Grand, entre ces quatre généraux. Les plus intéressants dans la Bible, c'est les Séleucus et Ptolémée en Égypte, et Séleucus au nord, en Assyrie, en Syrie et Assyrie, parce que c'est eux qui vont être impliqués dans des attaques contre Jérusalem. Jérusalem encore se retrouve entre les deux, mal placée. Et chaque fois que l'un va combattre l'autre, ils en profitent aussi pour s'attaquer à Jérusalem. Et puis on arrive à la prophétie, la plus grande prophétie de la Bible, le chapitre 9 de Daniel, qu'on avait étudié l'an dernier, mais que peut-être certains ne connaissent pas trop. On va donc passer un petit moment. Chapitre 9, juste avant les quatre généraux, l'histoire du royaume des Grecs et des Perses et des Grecs va être détaillée ensuite au chapitre 11. Au chapitre 11, d'une façon tellement précise, c'est fascinant, on n'a pas le temps de le faire ce soir, de comparer l'histoire biblique qui est ainsi décrite et l'histoire officielle, l'histoire qu'on a connue par d'autres sources, et de voir la grande correspondance, l'exactitude des prophéties de Daniel. Alors c'est tellement gênant pour les incroyants qui disaient en fait non, c'est pas possible, Daniel a été écrit après. Mais manque de chance pour ces incrédules, c'est que le roi Ptolémée avait fait faire une traduction de l'Ancien Testament en grec, parce que les Juifs qui habitaient en Égypte ou en Alexandrie ne connaissaient plus assez l'hébreu pour le lire dans le texte. Il avait donc rassemblé 70 sages érudits qui connaissaient parfaitement l'hébreu et qui connaissaient parfaitement le grec. Ils ont fait cette traduction dont on a des copies maintenant. Si vous en voulez, je peux vous en passer une pour votre ordinateur, une copie de la traduction en grec de l'Ancien Testament. Et ça, on sait quand ça a été fait. Ça a été fait deux siècles avant l'arrivée de Christ, à peu près. Et donc, le fait qu'on ait cette traduction en grec faite par les Septantes, Septantes, ça vient du mot 70. Souvent, la représentation, c'est un L et deux X. C'est la notation romaine du nombre 70. Le fait qu'on ait cette traduction montre que c'était vraiment des prophéties et non pas des faits qui ont été racontés après qu'ils se soient passés historiquement. Et encore une fois, on a dit que la Bible, c'était le message de Dieu aux hommes et qu'il voulait nous garantir, il nous faisait des clins d'œil pour nous faire comprendre que la Bible, c'est lui qui l'avait écrit. C'était pas des inventions d'hommes. Et la meilleure façon pour lui d'authentifier son message, encore une fois, c'est d'utiliser les prophéties pour nous montrer que lui qui est en dehors du temps, qui voit le futur comme le passé, lui, il peut se permettre d'écrire des choses parce qu'il les connaît, il les voit. Mais l'homme, à l'homme, ça, c'est impossible. Encore une fois, lorsque on compare la Bible à n'importe quel autre livre, soi-disant religieux ou qui peut être fondateur de religion, il n'y a absolument aucune comparaison. C'est pas du tout la même ligue, et c'est un scandale lorsqu'on les chrétiens n'ont pas foi dans leur Bible. Les chrétiens n'ont pas la foi de proclamer la parole de Dieu. Dieu a tout fait pour nous révéler la vérité, pour nous assurer quelle est la vérité. De grâce, soyons les premiers à la proclamer, à la croire et surtout à la mettre en pratique. On revient au chapitre 9. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, c'est-à-dire des Babyloniens. La première année de son règne, moi Daniel, je compris par les livres qu'il devait s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. Daniel prenait à la lettre les écrits de Jérémie. Il disait pas c'est pas littéral, c'est simplement pour dire qu'il va y avoir des changements, une époque. Non, il voyait qu'il y avait 70 ans qui arrivaient à la fin. Jérémie avait prophétisé que l'exil durait 70 ans, il savait que c'était la fin. Et il priait l'Éternel, son Dieu, et lui dit cette confession. « Ah Seigneur, Dieu est grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et ta bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché. Nous avons commis des fautes, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères et à tout le peuple du pays. » À toi, Seigneur, la justice et à nous la honte, comme en ce jour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël. Éternel, à nous la honte au visage. Il prend sur lui tous les péchés de son peuple. On a vu que c'était quelqu'un à qui on ne pouvait rien reprocher, qui priait, qui servait Dieu, mais il prenait le péché de tout son peuple sur lui, avec lui. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est écarté sans écouter ta voix. Verset 11. Alors sur nous se sont répandues les imprécations, les serments qui sont écrits dans la loi de Moïse. Il dit nous avons récolté ce que nous avons semé, nous avons péché contre Dieu. Il arrive à la fin de cette prière pour dire détourne de ta ville de Jérusalem ta fureur. Il souhaite le rétablissement de Jérusalem. Maintenant donc, notre Dieu, verset 17, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux, regarde nos ruines et la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de nos œuvres de justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, agis et pardonne. Seigneur, sois attentif, ne tarde pas par un mot pour toi, mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Et pendant sa prière, avant qu'il ait fini, il y a l'ange Gabriel qui lui apparut encore et qui lui répond. Verset 23, au commencement de tes supplications, une parole fut émise et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, saisis la parole et comprends la vision. Et verset 24 et suivant, versets 24 à 27, c'est la plus grande prophétie de la Bible. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie et pour oindre le Saint des Saints. Prends donc connaissance et comprends. Depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en des temps d'angoisse, après les 62 semaines, un Messie sera retranché et il n'y aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruire la ville, le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur ira à l'extrême des abominations jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. C'est la fameuse prophétie des 70 semaines. Le mot semaine est une mauvaise traduction. En fait, c'est il serait plus exact de traduire des septaines, une shabua, le mot traduit par semaine, c'était simplement un groupe de sept choses. Et on peut considérer qu'en fait les semaines, ce sont des périodes de sept années, donc 70 semaines, c'est 70 fois 60. Cette semaine, c'est 490 ans. Et quand on... C'est pour le peuple de Daniel, donc pour les Juifs, pour la ville sainte de Daniel, c'est pas Karbala ou une autre ville sainte du monde, c'est Jérusalem, pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché. Donc Dieu annonce que dans 70 semaines, dans 490 ans, il ne va plus y avoir de péché, il ne va plus y avoir de faute, il va y avoir la justice éternelle, le Saint des Saints, le temple va être oint. Et bien sûr, on voit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de fin au péché, la faute n'a pas été expiée, il n'y a pas la justice éternelle, il suffit d'ouvrir le journal, de regarder les nouvelles. Mais il est dit que jusqu'au prince Messie, il y a sept semaines. Et si on fait le calcul, on en avait parlé, on ne va peut-être pas trop avoir le temps de... Daniel a reçu ce message en 530 avant Christ. Et la promulgation dont il est question, depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem, c'est en fait, il y a eu trois édits qui ont été signés, mais il s'agit de celui qui fait reconstruire la muraille de Jérusalem. C'est donc Néhémie, le passage de 2, Néhémie 1, et là on a une date précise, on sait que c'était le 14 mars 445 avant Christ. Si on prend les 7 et 62 semaines, ça fait 69 semaines. Ça représente pour des périodes de 7 ans. Si on dit que la semaine, c'est une période de 7 ans, ça fait 483 ans. En considérant que les années de l'époque, les années prophétiques comptaient 360 jours, on arrive pour l'arrivée du prince Messie, on arrive au 6 avril 32 de l'ère chrétienne. Et ça correspond à l'arrivée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Ça, c'est la réalisation de la prophétie de Zacharie 9:9. Alors, à côté de cette prophétie, bien sûr, il y a des récits l'évangile de Luc. Il y a les dates des empereurs et des autres recoupements historiques qui permettent de dire qu'en fait, le prince Messie, c'est l'arrivée de Christ comme le Messie dans la ville de Jérusalem. Exactement 69 fois 7, 483 ans plus tard. On a expliqué en étudiant, il est dit qu'il va être retranché, ça correspond à la croix, il n'y aura personne pour lui. Il y aura le peuple d'un prince qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Ça, c'est les Romains qui sont arrivés en l'an 70 pour détruire Jérusalem. Le temple a été mis sans dessus dessous parce que le feu a pris, a fait fondre l'or et les soldats ont voulu récupérer l'or qui s'était glissé par les interstices entre les pierres jusqu'au fond. Donc ils ont vraiment tout retourné pour trouver l'or qui était fondu. Et la ville a vraiment été détruite, le sanctuaire a été détruit. Et en étudiant l'Apocalypse, on a vu qu'en fait, il y avait... comme une dernière semaine, on parle des 70 semaines qui avaient été fixées sur le peuple et sur la ville sainte pour arriver à la fin des péchés, à l'expiation de la faute, à la justice éternelle. Et c'était comme un peu si le chronomètre de l'histoire divine s'était arrêté. Il y avait 69 semaines qui s'étaient passées, qui correspondent à l'avènement de l'Église. L'Église qui va durer jusqu'à l'enlèvement de l'Église juste avant la période de la Grande Tribulation, la période de la Grande Tribulation qui va durer pendant 7 ans. C'est la dernière semaine qui va correspondre à cette prophétie de cette dernière semaine. Et le dévastateur qui ira à l'extrême des abominations, ça correspond à l'Antéchrist qui va, dont il est question, dont on parlera dans l'Apocalypse. Il y a eu aussi une accomplissement quasi immédiat de cette dévastation qui était lorsque, entre les deux testaments, la période entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a eu, par des livres non canoniques, non inspirés, mais historiques quand même, le livre des Maccabées notamment, explique qu'il y a eu un des Séleucides, Antioque Épiphane, qui a envahi Jérusalem et qui a même remplacé dans le temple de Jérusalem, a fait adorer des truies. Donc on sait que les Juifs mangent pas de cochon. Ils ont remplacé les symboles divins par des symboles de cochon. Ça a été l'extrême des abominations jusqu'à ce que la ruine ait fondu sur le dévastateur. Ça c'est Antioque Épiphane. Et donc on voit comment la prophétie et l'accomplissement historique à l'époque des Romains s'entremêlent plutôt. Et on arrive au dernier chapitre 12, et là on a une vision des temps messianiques. J'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux, verset 7, du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce que sera dans un temps des temps et la moitié d'un temps, que tous ces événements s'achèveront quand la force du peuple saint sera entièrement épuisée. J'entendis, mais ne compris pas, et je dis, « Monseigneur, quelle sera l'issue de ces événements ?» Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis et épurés, les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où sera interrompu le sacrifice perpétuel où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche jusqu'à la fin, tu te reposeras et tu te lèveras pour ton héritage à la fin des jours. » Là encore, on saute dans la fin des temps, dans les temps messianiques dont on reparlera. Mais une parole intéressante, c'est que les paroles seront scellées et secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Et souvent, certains chrétiens traditionnalistes refusent les interprétations messianiques de la fin des temps parce qu'ils disent « Jamais dans l'histoire de l'Église, on a parlé de ces choses de cette façon. » Je crois que c'est justement encore un accomplissement de cette prophétie, que c'est vers les temps de la fin, on s'approche de ces temps, je ne sais pas si c'est encore des siècles ou des dizaines d'années, ou moins que ça peut-être, mais on est à même de comprendre ces paroles qui ne sont plus aussi secrètes qu'elles l'étaient. Et ça explique que certaines des interprétations sont relativement nouvelles, mais en même temps il y a des éléments qui sont mis en place qui permettent de comprendre ne serait-ce que la reconstitution de l'État d'Israël en 1948, les ossements qui se rassemblent, la technologie, les progrès qui font qu'un événement peut être vu en direct sur toute la surface du globe, les témoins seront vus de partout, les deux témoins seront vus dans le monde entier. Il y a des choses que les gens ne pouvaient pas comprendre il y a ne serait-ce qu'un siècle, mais maintenant avec l'avancement de la technologie et je crois surtout l'approche des temps de la fin, on peut comprendre davantage ces messages de prophétie. Et donc l'Église, nous on est comme une parenthèse dans cette prophétie des 70 semaines et il y a ce qu'on appelle la plénitude des païens, c'est-à-dire que lorsque le dernier païen qui doit venir à Christ sera venu à Christ, à ce moment-là on pourra avancer dans le déroulement prophétique de l'histoire de l'humanité. Peut-être que quand vous parlez à quelqu'un, vous êtes en train de parler à cette plénitude des païens. On pourra rajouter ça sur notre sondage. Est-ce que vous pensez être la plénitude des païens? Prions. Seigneur, merci pour ta parole et tu vois que nous voulons rester prudents sur tout ce qui est interprétation très détaillée, Seigneur, mais en même temps, nous ne voulons pas hésiter ou éviter ces prophéties, notamment Daniel, Ézéchiel, Ésaïe, l'Apocalypse. Seigneur, tu nous as même dit qu'il y avait une bénédiction à étudier le livre de l'Apocalypse, à le comprendre. Nous te demandons la sagesse, ton inspiration, par ton esprit, Seigneur, pour bien comprendre, ne pas commettre d'erreurs grossières. Mais même sans connaître exactement la chronologie ou le déroulement, nous voyons, Seigneur, que c'est toi qui restes le Dieu de l'histoire. Tu es le Dieu Tout-Puissant et il est encourageant de voir ces grands hommes qui ont dirigé des grands royaumes. Change même à Napoléon qui disait qu'il voyait en toi quelqu'un qu'il n'avait jamais vu dans aucune autre religion, qui peut-être croyait vraiment en toi. Ces grands hommes réalisent que tu es le vrai Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant, que tu diriges toutes choses. Seigneur, apprends-nous à avoir ce respect, cet émerveillement devant ta puissance, devant ta sagesse. Qu'il puisse nous guider, Seigneur, que nous puissions être à toute mesure gardés, Seigneur, comme des Daniels qui ne veulent pas se compromettre dans le monde, qui tiennent bon à l'opposition, qui persévèrent dans le service de notre Dieu. Seigneur, sois celui qui nous donne cette force pour être glorifié. Que tu sois glorifié, Seigneur. Amen. Amen.